J'avais alors en effet rue de l'Ouest, aujourd'hui rue d'Assas, un très petit et très incommode logement, mais très bon marché, comme mon mince revenu le voulait. Le même que les gens de la commune occupèrent en mai 1871 pendant 3 jours. Des fenêtres, ils firent feu sur les Versaillais qui pénétraient. Puis, quand, tournés là comme ailleurs, ils prirent la fuite, ils eurent soin de ne pas s'en aller sans allumer l'incendie au rez-de-chaussée. La maison flamba, mais la troupe, arrivant, se rendit maîtresse de l'embrasement, ainsi que dans la maison en face où logeait M. Michelet, heureusement absent, et que les incendiaires n'oublièrent pas. J'avoue que sur le moment, j'eus une vive reconnaissance aux soldats de Versailles d'avoir sauvé mon chétif mobilier, mes livres, mes papiers, mes notes et quelques chers souvenirs. Mais il paraît qu'on a changé tout cela depuis le retour de Nouméa et ses retentissantes ovations. Les chefs et les patrons des amnistiés nous crient à tue-tête que c'est l'armée régulière qui fut criminelle, que les gens de la commune exerçaient une juste et bonne fonction en incendiant maisons, palais, bibliothèques, hôtels de ville, et que le misérable intérêt personnel qui me préoccupa pour mon chez-moi est ce qui me mit et me met du côté des répresseurs. J'eus et je conserve de plus puissants motifs et des motifs plus désintéressés pour soutenir l'action légale qui, par la force militaire, étouffa une sinistre insurrection et rendit Paris à la France. C'est de la politique, sans doute. Et comment l'éviterait un homme chez qui, par politique, on a mis le feu? Donc, en cet appartement que la commune faillit à brûler, et avant les désastres du siège, M. Hachette, venant un jour me voir, remarqua les monceaux de papier qui l'encombraient, et qui étaient la partie non encore imprimée de mon dictionnaire. L'étroit voisinage de ces papiers et du foyer de la cheminée le frappa, et l'inquiétude d'un incendie lui vint à l'esprit. « Que pourrait-on faire, me dit-il, pour prévenir une perte irréparable? Y aurait-il moyen de prendre copie de tout cela et d'en avoir un double ?» J'objectai que prendre copie d'une telle masse serait bien long et bien dispendieux, que les risques de chez moi se doubleraient des risques chez un copiste, et qu'avec une pareille opération purement subsidiaire, il y avait lieu d'appréhender les retards qu'il importait tant d'abréger. Sur ce, la proposition en resta là. Mais je demeurai sous l'impression qu'elle avait provoquée, et tout soucieux de l'éventualité d'un sinistre. Ma sécurité imprévoyante avait disparu, et je songeais à quelques précautions, sinon pour anéantir, du moins pour atténuer les mauvaises chances dont la vive image me faisait trembler. Mon manuscrit était disposé par paquets de 1000 feuillets. Il se trouva, compte fait, que j'avais 240 de ces paquets. En conséquence, je commandai 8 caisses en bois blanc, capables de contenir chacune 30 paquets, en tout 240 000 feuillets. C'était la fin du dictionnaire et représentait à peu près l'équivalent de ce qui était déjà imprimé et sauvé des dangers éventuels. Ces caisses furent remises à un emballeur qui les prépara comme si elles devaient traverser la mer et aller en Amérique ou aux Indes, c'est-à-dire résister à la longueur du temps, à l'humidité et à toutes les intempéries. Elles n'avaient pas à voyager si loin. Je les emportai à Ménil-le-Roi et les déposait dans la cave. Là, l'incendie ne les menaçait pour ainsi dire plus. Je n'avais de voisins que d'un côté, ce qui diminuait de moitié le risque. J'habitais seul ma maison, et encore seulement durant la belle saison, et j'évitais les dangers de l'hiver, où les feux sont particulièrement fréquents. Enfin, si le malheur voulait qu'elle brûlât, cette maison, peu haute et de petite dimension, ne causerait pas par sa chute l'effondrement de la cave. Les caisses y restèrent plusieurs années. L'emballeur n'avait pas surfait la valeur de son opération, et les papiers qu'elles contenaient ne souffrirent en rien du long séjour qu'elles y firent. Je les tirai l'une après l'autre au fur et à mesure des besoins de l'impression. C'est ainsi que j'arrivai au milieu de la terrible année 1870. Après la première bataille perdue, qui n'annonçait que trop l'insuffisance de notre gouvernement et de nos chefs militaires, je compris aussitôt que la guerre allait arriver sous les murs de Paris. Car on savait dès lors que M. le maréchal Bazaine par une incroyable et impardonnable négligence, s'était laissé couper et cerner dans Metz. Et l'on pensait que M. le maréchal de MacMahon, avec l'armée du camp de Châlons, battrait en retraite afin de la conserver pour la défense de Paris, qui, sans elle, serait infailliblement investie et séparée du reste de la France. Je me persuadai donc que les environs de Paris seraient le théâtre d'actives opérations militaires, et que les villages du rayon, entre autres Ménil-le-Roi, étaient exposés à devenir des positions prises et reprises, et à être incendiés. Avec ces perspectives telles que je me les figurais, et malgré les poignantes angoisses du malheur public, je gardais le souci de mes caisses comme je le devais, car je n'étais pas seul intéressé à leur conservation. La maison Hachette l'était aussi. Je pris ce qui m'en restait et les emportai à Paris avant l'investissement. Eh bien, je m'étais trompé. Mes caisses auraient pu rester à Ménil-le-Roi sans courir le risque de périr avec le village qui leur servait d'asile. L'armée de Châlons, par une inspiration partie des Tuileries et digne complément de toute la stratégie d'un gouvernement affolé, alla se faire prendre en masse à Sedan. Hommes, chevaux, fusils, canons, généraux, empereurs, et l'on ne se battit pas dans la campagne autour de Paris. Ménil-le-Roi ne fut pas occupé par les Allemands. Ils n'y firent que des allées et venues. Dans un de leurs passages, remarquant une maison qui était inhabitée, ils en enfoncèrent la porte et y pénétrèrent. Là se borna le dégât. On me raconta même qu'entrés et voyant mes livres, ils dirent « Belle bibliothèque !» Le fait est qu'y revenant 9 mois après, en mars 1871, je retrouvai tout intact. Même le vêtement que j'avais quitté à la hâte en partant était encore sur mon lit dans ma chambre à coucher, qui était aussi, je l'ai dit, mon cabinet de travail. Au premier moment, les habitants de Ménil-le-Roi avaient fui, mais ils ne tardèrent pas à revenir en leur demeure. Ils songèrent à moi, tout absent que j'étais. Et afin d'empêcher que mon logis ne parût inhabité, et ne fût pour cela plus exposé à être mis au pillage par les hommes qui allaient et venaient encore entre carrière et maison Lafitte, ils y installèrent un des leurs. J'avais été bon pour eux comme médecin dans leur maladie. Ils furent bons pour moi comme gardien et défenseur de mon chez-moi abandonné. À Paris, avec mes caisses, autre embarras. Il eût été imprudent et contradictoire au genre de précaution que je cherchais de les loger en l'appartement que j'occupais au 3e, rue de l'Ouest, car cet appartement était dans le rayon de la portée des canons allemands. Et en effet, 2 obus y tombèrent. À la vérité, ces obus, l'un détruisit le mobilier d'une pauvre voisine, mais au 4e et sur l'autre palier, ne m'atteignirent pas. Dès que les communications furent rétablies entre Paris et Bordeaux, où j'étais alors, un journal annonça que tout avait été mis à mal chez moi. Mais bientôt des lettres rassurantes m'apprirent qu'il n'en était rien. Toutefois, ce n'était pas sur de pareils hasards, échappant à toute prévision, qu'il convenait de se régler. L'odyssée de mes caisses n'était donc pas terminée. Je demandai de les recevoir à la maison Hachette, qui y consentit. Là, elles étaient hors de la portée des obus. Aucun projectile venu de la rive gauche n'atteignit jusque-là. On les plaça dans un sous-sol très solide, où elles semblaient à couvert de toutes les injures. Ce fut pourtant en cet abri qu'elles coururent un dernier et sérieux danger. Lors de la reprise de Paris par l'armée, qui exécutait les ordres du gouvernement légal de la France, une bande de gens de la commune occupa le haut de la rue Hautefeuille, au point justement où sont situées et la maison de M. J.B. Bayer et celle de M. Hachette. Quand le progrès des troupes de Versailles devint menaçant, ces gens agitèrent derrière leurs barricades les sinistres résolutions qui furent mises à exécution en temps de lieu. Ils s'apprêtèrent à allumer l'incendie de ce groupe d'édifices. Mais ils furent dérangés dans leur dessein, à tort suivant eux, à droit suivant moi, par les soldats qui les dispersèrent. Les maisons Bayer et Hachette échappèrent à la destruction, mais qu'est-ce aussi? Délivré de soucis à l'égard de ce qui me restait à imprimer de dictionnaire, je songeais à moi et aux miens. Et après de cruelles hésitations entre les différents devoirs, je me décidai à quitter Paris. Je ne pouvais, vu mon âge, servir à la défense, et je pensais rendre un service négatif en débarrassant de bouches inutiles, ce que bien d'autres auraient dû faire, la ville qui allait être investie et affamée. Toutes mes habitudes hors de chez moi étaient en Bretagne. C'est là que nous nous réfugiâmes, moi, ma femme et ma fille. Nous trouvâmes une cordiale hospitalité à Saint-Brieuc, chez M. le docteur Formorel, et notre exil fut adouci. Mais que les journées étaient longues. On soupirait anxieusement après le journal de chaque jour, qui n'apporta qu'une fois une bonne nouvelle, celle de la bataille de Coulmiers. On recevait par ballon quelques lettres qui nous informaient de nos amis, de Paris, de ses souffrances et de la généreuse endurance des Parisiens. Et l'on se reprochait avec amertume le pain qu'on mangeait si commodément, pendant que s'avançait chaque jour vers les derniers abois. Dans cette inerte attente, et pour tuer le temps qui me tuait, je mis à contribution la bibliothèque de M. le docteur Formorel, et je recueillis quelques provisions pour mon dictionnaire, bien que, aux heures les plus sombres, je ne susse plus si nous aurions encore une patrie et tout ce que ce mot sacré comporte. Il n'était aucune détresse qui ne semblât possible, surtout à un vieillard qui ne croyait plus guère se reprendre à la vie et au travail. Enfin, des lueurs apparurent dans ce ciel si obscur. L'Assemblée nationale, dont 80 000 électeurs parisiens m'avaient fait membre, vint s'installer à Versailles. Mais les portes de Paris ne se rouvrirent pas encore pour moi. L'insurrection du 18 mars l'occupait, et le siège, une fois commencé, je n'y pouvais rentrer. Autres angoisses, avec le peu de troupes, et troupes si désorganisées, si découragées, dont M. Thiers disposait, rien n'était plus incertain que la lutte contre le populaire parisien soulevé, nombreux, maître des forts sauf le Mont-Valérien, formé en bataillon et pourvu en quantités infinies de fusils, de canons et de munitions. Malgré des circonstances aussi défavorables, et en dépit de mon peu de cœur à l'ouvrage, M. Beaujean, qui était resté à Paris et qui pouvait me servir d'intermédiaire, insista d'une manière pressante pour que nous nous remissions à la besogne du dictionnaire, interrompue depuis près d'un an. Et il fut bien inspiré en me forçant ainsi la main. Il n'y avait, je le vis bientôt, rien à perdre en recommençant, et beaucoup à gagner, c'est-à-dire du temps, de la confiance en un retour de la fortune, de l'activité en une réparation qu'il était du devoir de chacun d'entamer sans retard. Mes collaborateurs se montrèrent tout prêts. L'imprimerie accueillit de la copie avec satisfaction, et des ouvriers se retrouvèrent pour la composer. On avait ouvert chez M. Hachette celle de mes caisses qui était en exploitation lors de l'interruption. Tout y avait dormi de longs mois. Mais comme dans le conte de Perrault, tout, copies en train, placards à demi corrigés et feuilles commencées, se réveilla en sursaut. Les épreuves étaient envoyées, non sans peine, à Versailles, non sans peine renvoyées à Paris. Ma plus grande gêne provenait de ma séparation d'avec mon appareil lexicographique. Mais enfin, cette gêne ne fut que passagère. L'insurrection succomba, et je revins à Paris, à mon œuvre, à mes livres et à toute mon installation. Dès lors, l'impression marcha rapidement, et elle se termina en 1872, avec la fin de l'année. J'ai noté ci-dessus quelle joie intime j'éprouvais en 1865, quand j'écrivis le dernier feuillet de la refonte. Le dernier bond à tirer que je donnais en 1872 renouvela avec non moins de vivacité le sentiment d'un accomplissement obtenu par de grands efforts, après beaucoup d'années, en dépit de moments de vrai désespoir intérieur et de bien rudes traverses extérieures. Ces derniers 18 mois, 1871-1872, furent pour moi des mois chargés outre mesure et difficiles. Tous les arrangements de ma vie pour me procurer la plus grande somme de temps disponible étaient bouleversés. Membre de l'Assemblée nationale, j'assistais régulièrement à ces séances. N'ayant pu prendre résidence à Versailles à cause de mes livres et de tout ce qu'à Paris j'avais sous la main, j'étais obligé de faire chaque jour le voyage dont on s'est tant plaint et qui vient seulement de cesser. De la sorte, le milieu des journées m'était enlevé tout entier. il ne me restait que les matinées, les nuits, les dimanches et les vacances de l'Assemblée. Ces heures dérobées aux devoirs publics, on imaginera sans peine avec quel soin jaloux je les employais, et combien je me réjouis quand je vis qu'elles suffisaient. Ce fut à la fin de cette année 1872 que ma santé commença de s'altérer profondément. Je fus pris de petites fièvres. Un catarrhe s'établit dans les voies nasales et respiratoires et ne m'a plus quitté. Les ongles des mains devinrent malades et tombèrent les uns après les autres. Le temps ni les soins médicaux n'apportèrent aucun soulagement. Le temps qui, au contraire, aggravait chaque jour le poids de la vieillesse. Les soins médicaux qui ne trouvaient aucun appui dans une constitution tombant en ruine. Et en effet, loin de s'amender, mon état, après avoir ainsi duré d'une façon pénible mais supportable, se compliqua d'un rhumatisme qui me causa et me cause de grandes douleurs, et qui lui aussi prit le caractère de permanence des premiers et toujours persistants accidents. Peu à peu, je fus tout à fait confiné dans ma chambre, presque cloué sur mon fauteuil, et je représentais assez bien le misérable Scarron que nous connaissons, avec un peu moins d'impotence peut-être, mais sûrement avec un opiniâtre cathare en plus, conservant comme lui la lucidité d'esprit, et l'employant comme lui aux distractions du travail intellectuel. J'ai attentivement examiné, au point de vue médical, si j'étais en droit de rattacher les souffrances qui assaillent la fin de mon existence au genre de vie que j'ai mené durant les 15 dernières années de mon dictionnaire. Et il m'a été impossible d'y apercevoir aucun lien de cause et d'effet. Bien des gens ont travaillé et travaillent autant que moi, sans être en proie à la pathologie compliquée qui s'est emparée de ma personne. Ma détérioration n'a rien présenté de graduel, comme eût fait un surmenage progressif. Elle m'a envahi d'emblée. Et quant au rhumatisme final qui s'y est adjoint, et qui m'a fait le triste pendant de l'auteur du Virgile travesti, on raconte que le pauvre diable dut son mal à une farce imprudente qui l'exposa sans défense à l'influence du froid. En considérant mon histoire pathologique, je suis disposé à m'en prendre, aussi bien pour le rhumatisme que pour ce qui l'a précédé, à une hérédité fâcheuse. Mon grand-père paternel, bien que mort très âgé, 89 ans, fut tourmenté pendant bien des années par la goutte. Mon père, qui n'atteignit pas à beaucoup près l'âge du sien, eut des attaques de gravelle, à l'une desquelles il succomba. Et l'on sait médicalement que la goutte et la gravelle ont entre elles de la parenté. À mon tour, je suis en proie à des troubles généraux et dyscrasiques, et surtout au rhumatisme lié lui aussi à la diathèse goutteuse. J'innocente donc le dictionnaire de toutes les perversions organiques qui m'affligent. La maladie qui ne m'a plus quitté me causa, au moment de l'achèvement, avec lequel son invasion coïncida, un désappointement, petit sans doute, mais qui me fut sensible. Mon dessein était de réunir, à un repas de félicitations et d'adieux, mes collaborateurs, mon éditeur, M. Hachette, et quelques amis datant du collège ou à peu près. Devenu malade, il me fallut renoncer absolument aux réunions et aux repas. J'espérais d'abord que ce n'était qu'un ajournement. Mais j'espérais en vain. L'ajournement était définitif. Le temps n'accommoda rien, il empira tout. Et en écrivant ces lignes, je tiens la plume d'une main débile et endolorie. Un incident m'informa de bonne heure du succès que mon livre, une fois achevé, obtenait. Jusque-là, les livraisons publiées l'une après l'autre n'avaient eu qu'une vente très circonscrite, un succès d'estime au-delà duquel on n'irait pas, pensaient plusieurs autour de moi, juges d'ailleurs éclairés et bienveillants. Et de fait, les dimensions volumineuses du dictionnaire, sa cherté absolue et le caractère d'érudition qui y était empreint semblaient lui interdire l'accès du grand public. Toutefois, la maison Hachette conservait bon espoir. J'étais plutôt, ne fût-ce que par crainte des déceptions, du côté de la défiance, lorsque, me trouvant à Versailles, mon collègue à l'Assemblée nationale, M. Carnot père, me demanda comment il se faisait qu'on ne pouvait se procurer un exemplaire de mon dictionnaire. À cette question, je n'eus point de réponse, et je supposai que le libraire à qui M. Carnot s'était adressé avait commis quelque méprise. Il n'en était rien. J'eus hâte, on le pense bien, de m'enquérir auprès de M. Hachette, qui m'apprit qu'en effet la demande avait dès le premier abord épuisé ce qu'on avait de prêt en exemplaires, qu'on avait été, et que l'on s'en félicitait, pris au dépourvu, mais que, dès à présent, un nombre de presses suffisant pour satisfaire aux exigences était en pleine activité. Ces presses ne chômèrent plus, et l'éditeur et l'auteur ont assisté à un écoulement régulier. Sans doute, le fort de cet écoulement s'est opéré et s'opère encore en France même. Néanmoins, un appoint non à dédaigner a été fourni par les pays étrangers. Mon dictionnaire s'est répandu auprès et au loin. Et d'Angleterre en particulier, me sont venues des appréciations qui m'ont été fort sensibles. Je ne noterai pas cette circonstance si elle n'attestait que l'intérêt excité par notre langue dans les deux derniers siècles, que dis-je, dans le haut Moyen-Âge, alors que notre littérature jouissait déjà de la faveur de l'Europe, ne s'est pas perdu, et que non seulement en vue de nous-mêmes, mais aussi en vue des étrangers, nous devons avoir souci de notre parlure, c'est le mot de nos aïeux, car noblesse oblige. Mon dictionnaire ne s'est terminé tout à fait qu'à la fin de ma 71e année. Plus j'avançais dans la vieillesse, plus ma témérité devenait grande, et plus ma chance diminuait de mettre moi-même la dernière main à mon œuvre. Ma témérité a eu le dessus. J'en ai été félicité par un de mes collègues et amis, M. Laurent Pichat, qui soutint mes efforts et aida mon labeur. Les expressions dont il s'est servi ont excité en moi le scrupule de les transcrire. Mais je prie mon lecteur, qui certainement partagera ce scrupule, d'oublier la forme pour ne considérer que le fond. Un homme illustre de notre temps, a dit M. Laurent Pichat en un discours prononcé à la distribution des prix du lycée Charlemagne, le 5 août 1879, dont l'héroïsme moral est devant nous comme un grand exemple, entreprit une tâche immense sans songer au jour que cette vie lui réservait. Il commença son œuvre vers les années du déclin. Il y travailla 15 ans, et l'impression de l'ouvrage dura peut-être autant d'années encore. Le succès couronna la tentative, il éleva un monument national. Et il peut se reposer maintenant en considérant avec sérénité l'édifice qu'il a consacré à la langue française. Ces paroles, adressées à des jeunes gens qui entrent dans la vie, à propos d'un vieillard qui en sort, m'ont paru, malgré l'excès de la louange, mériter d'être recueillies. D'autant plus que mon exemple et les conseils dont je l'ai accompagné ont, je le sais assurément, engagé plus d'un homme de labeur et d'action à regarder plutôt ce qu'il avait à faire que ce qu'il avait à vivre. Note supplémentaire. Le commencement de la copie fut remis à l'imprimerie le 27 septembre 1859. La fin le 4 juillet 1872. Les premiers mois de 1859 furent employés à des essais de caractère, avec un paquet de copies livrées pour ces essais. La copie, sans le supplément, comportait 415 636 feuillets. Il y a eu 2242 placards de composition. Les additions faites sur les placards ont produit 292 pages à 3 colonnes. Si le dictionnaire, toujours sans le supplément, était composé sur une seule colonne, cette colonne aurait 37 525 mètres 28. La composition a commencé régulièrement en septembre 1859. Le bon à clichés du dernier placard, sans le supplément, a été donné le 14 novembre 1872, ce qui fait une durée de 13 ans et 2 mois environ. La composition n'a été interrompue que pendant la guerre, du 1er août 1870 au 21 février 1871, et pendant la Commune, du 19 avril au 14 juin 1871.